conférence chrétienne à Rivière-du-Loup, le 25 mai 1991. Le thème, les choses qui doivent arriver bientôt.
J'étais suggéré qu'on donne aux députés une esquisse générale des choses à venir. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, lire votre Bible, dans l'Apocalypse, au premier chapitre, le premier verset. Où l'on trouve le verset qui a été suggéré comme thème de la conférence. C'est-à-dire les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On va lire à la fin de l'Apocalypse aussi, au chapitre 22. Apocalypse 22, au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On va lire aussi dans la première épître de Pierre, ou plutôt la deuxième épître de Pierre, excusez-moi, Deuxième épître, premier chapitre. 2 Pierre 1. Et nous lisons au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le thème qui nous est proposé pour cette journée, c'est les choses qui doivent arriver bientôt. Ce qu'on appelle souvent la prophétie biblique. À noter que le prophète, c'est un porte-parole. C'est ce que signifie un prophète, un porte-parole. Celui qui s'exprime de la part d'un autre. Et les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament ne faisaient pas qu'annoncer des choses futures, mais aussi ils avaient pour ministère de réveiller le peuple de Dieu, de parler au cœur du peuple pour aujourd'hui, mais aussi d'annoncer des choses d'avenir. Aujourd'hui, le mot prophétie a pris plutôt un sens plus restreint et décrit les choses qui doivent arriver. On appelle aussi la prophétie, plus justement, l'eschatologie. C'est un mot, un grand mot peut-être, pour plusieurs, un mot qui vient du grec eschatos, qui veut dire dernier. C'est les choses des derniers temps, ce qui doit arriver à la fin des temps. C'est ce que signifie le mot eschatologie, les choses de la fin. Si vous regardez le dictionnaire, vous verrez, ils mettent les prédictions concernant la fin de l'homme, qui va arriver à la fin. Dans la Bible, il y a deux hommes qui ont été les objets de révélations toutes particulières de la part de Dieu. Deux à qui Dieu a annoncé les choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Daniel, puis dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean. Tous les deux étaient des exilés. Daniel était en Babylonie, l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, dans la mer Égée. Et tous les deux étaient des hommes qui nous sont décrits comme étant aimés de Dieu. Trois fois dans le livre de Daniel, il est dit à Daniel, l'ange lui dit, l'ange Gabriel, tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé, Daniel. Et puis l'apôtre Jean, il aimait à se décrire lui-même comme le disciple que Jésus aimait. À plusieurs reprises, quatre fois au moins, il s'appelle ainsi, le disciple que Jésus aimait. Pas parce que le Seigneur l'aimait plus que les autres, mais parce qu'il avait lui-même ce sentiment plus intime de l'amour de Dieu pour lui. Alors on voit que ces deux hommes qui ont été l'objet de révélations ont réalisé d'une manière particulière l'amour de Dieu pour eux. Et on peut bien extrapoler en disant que si Dieu nous révèle les choses à venir, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous fait connaître les choses qui doivent arriver bientôt. La même chose que pour Abraham, ça c'est remarquable, Abraham aussi, il est appelé trois fois dans la Bible, ami de Dieu. Et c'est de lui que Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire quand il voulait détruire Sodome. Dieu aussi se sentait comme obligé d'avertir Abraham qu'il aimait ce qui allait arriver. Dieu nous aime et nous informe de ce qui doit arriver. Mais c'est pas seulement pour meubler nos esprits, parce qu'il a été dit, et bien dit, la connaissance des choses de demain doit nous aider à mieux vivre aujourd'hui. Très important, il y a évidemment une influence dans notre vie d'aujourd'hui, quand on sait ce qui va arriver demain, parce que nous sommes, nous, sans vouloir être prétentieux, des gens privilégiés, de savoir ce qui va arriver demain. Le journal nous dit ce qui est arrivé dans ces dernières heures, mais il ne peut pas nous dire vraiment, avec certitude, ce qui va arriver demain. On a dit, il n'y a rien qui vaut moins que le journal de hier. Tandis que la parole de Dieu, elle nous annonce des choses à venir, pour notre instruction et pour notre édification. Dans ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, on voit que ces choses sont certaines, elles sont sûres. C'est des révélations du Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et dans ce qu'on a lu dans la seconde épître de Pierre, on voit aussi que ce sont des choses sûres. Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, ou habilement conçu, comme c'est traduit dans notre version. des inventions très, très bien présentées, peut-être par des orateurs hors pair, mais qui finalement sont seulement des fables, qui sont de la fiction. C'est pas ça. C'est des révélations divines. Et dans le verset 16, on voit que ces révélations sont basées sur la certitude du témoignage des apôtres, qui ont été les témoins de la transfiguration, qui ont vu le Seigneur Jésus venant dans sa gloire. Ils ont eu, ceux qui étaient présents, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient privilégiés à plusieurs occasions, ils ont eu un échantillon de la gloire qui sera celle du Seigneur Jésus quand il va revenir avec ses saints pour mettre de l'ordre sur la planète, pour juger le monde et pour instaurer son règne merveilleux dont nous allons parler plus tard. Donc, le témoignage des apôtres est un gage de la vérité de ce que nous allons dire à propos du règne à venir. Mais aussi, autre chose, il dit la parole prophétique, sachant vous-même qu'aucune prophétie d'Écriture n'est l'objet d'une interprétation particulière. Dans les versets, au verset 19, donc, aussi, on voit que la parole prophétique, à laquelle il faut bien prêter attention, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, deux choses, témoignage des apôtres, qui ont été les témoins oculaires de la transfiguration, qui est l'échantillon du règne, du Seigneur venant dans son règne, et aussi la parole prophétique. La parole prononcée de la part de Dieu, ou prophétique de la part de les apôtres, les écrivains inspirés, ont été les porte-parole de ce que Dieu voulait nous communiquer. Maintenant, la lampe qui brille dans un lieu obscur, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la parole prophétique. C'est comme une lampe qui nous éclaire dans un endroit tout à fait obscur. Le lieu obscur, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le monde où nous vivons. Le monde où nous vivons est comme un lieu obscur. Et le jour qui va paraître, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand nous allons être avec le Seigneur, quand nous allons le voir et être avec lui. Comme il dit dans Romains chapitre 13, verset 12, la nuit est fort avancée. Dans la version seconde, c'est la nuit est avancée. Mais dans la Bible d'Henri, qui est plus précise, il dit la nuit est fort avancée. Mais le jour approche. Le jour approche. Ces choses doivent arriver bientôt. Et finalement, l'étoile du matin, bien, comme on le voit ailleurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même, comme il dit dans l'Apocalypse 22, Seigneur Jésus dit lui-même, moi, je suis l'étoile du matin, qui doit se lever avant que paraisse le soleil de justice, que le règne de Christ soit établi sur ce monde. Maintenant, vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas, en trois quarts d'heure, donner toutes les citations et, disons, chercher tous les textes, parce que c'est au-delà de matérialité, au-delà des possibilités. Si quelqu'un aimerait être plus convaincu après, dans les moments de pause, si c'est possible, je serais prêt de donner des références bibliques, de montrer des versets pour prouver ce que j'avance, parce que ce que je vous dis, je le crois sincèrement, je vous le dis d'emblée, je crois que c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Non pas pour vous dire des choses qui sont de pure spéculation, ce que vous voulez savoir, c'est pas ce que Jean-Paul Vernet ou d'autres prédicateurs ont à vous dire, vraiment. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce qui compte, c'est ce qui nous intéresse, évidemment. La parole prophétique venant de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, on constate qu'il y a deux lignes de prophéties. Certaines prophéties qui aboutissent ou à la crèche, à à Bethléem et finalement au calvaire. Et il y a une autre ligne de prophétie qui aboutit, elle, sur la montagne des Oliviers et puis sur le trône où le Seigneur Jésus doit régner. Il y a ces deux lignes de pensée qu'il ne faut pas mélanger. La première, c'est la première ligne de pensée, c'est la première venue du Seigneur Jésus, où il est venu en humilité, dans la faiblesse. Il est né comme un enfant à Bethléem, Ephrata, en Judée, et finalement, à la fin de sa vie, il est mort sur une croix. Et la deuxième ligne de pensée, c'est quand il va venir en gloire, triomphant, ses pieds poseront sur la montagne des Oliviers, comme dans Zacharie, et puis il va aboutir sur le trône à Jérusalem. Il va venir régner sur ce monde. C'est ce jour que nous attendons. Savez-vous, j'ai pensé à ça, en méditant là-dessus, je me suis dit, il y a dans la Bible deux affirmations du Seigneur Jésus qui ont une grande importance. La première, elle est dans le psaume 40. Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Au sacrifice, aux holocaustes, tu n'as pas pris plaisir. Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Parole du psaume 40, citée dans Hébreux chapitre 10. Voici, je viens. Ça, c'est un fait historique. Même les incrédules doivent mettre la date qui nous dit que ça fait 1991 ans qu'il est venu. Et la deuxième affirmation, je reviendrai. Ça, c'est pas historique, c'est prophétique, avenir, eschatologique. Je reviendrai. Je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai. Le premier est au présent, c'est ce qu'il a dit quand il est venu dans ce monde. La deuxième affirmation, elle est avenir, futur, je reviendrai. C'est vrai que c'est en rapport avec l'enlèvement, mais on peut aussi comprendre pour sa deuxième venue, quand il va venir régner dans ce monde, il doit revenir. Alors, gardons en mémoire ces deux grandes lignes. On ne peut pas se rappeler du tout quand on assiste à une conférence comme aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont, disons, encore au début de leur vie chrétienne, ou qui n'ont pas vraiment beaucoup de connaissances dans la prophétie biblique, même les plus avancés, on ne se rappelle pas du tout, et jamais personne qui peut réciter par cœur tout ce qu'il a entendu à une conférence. Si oui, on a certainement convoité sa mémoire, on ne se rappelle pas du tout. Mais ça, vous allez vous rappeler, les deux lignes de pensée. La première qui aboutit à la crèche et finalement à la croix. La deuxième s'aboutit au mont des Oliviers et au trône, là où le Seigneur Jésus doit revenir pour régner. Maintenant, on devrait dire d'emblée, il y a environ 300 prophéties qui se sont accomplies à la lettre. À la première venue du Seigneur Jésus. 300 prophéties qui se sont accomplis, ce serait trop long, parce que de toutes les énumérer, ça prendrait bien plus que la matinée pour regarder dans la parole tout ce qui s'est accompli littéralement lors de la première venue du Seigneur Jésus. Donc cela nous fait dire que tout ce qui concerne sa deuxième venue va aussi s'accomplir littéralement. On n'a pas de raison de spiritualiser ce qui concerne sa deuxième venue, parce que ce serait avoir deux manières d'interprétation, et ce serait illogique. Donc, le fait que le Seigneur Jésus doit venir, régner sur le monde, Établir son règne visible, ce sont des prophéties littérales. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui, même des vrais chrétiens, qui sont nos frères et nos sœurs, qui croient à une interprétation spiritualisée pour la deuxième venue du Christ. C'est ce qu'on appelle les amillénaristes. Ça, vous devez connaître ces trois mots. Il y a les prémillénaristes, ceux qui croient à la venue du Seigneur avant le millénium, prémillénaristes, avant le millénium. Millénium, ça vient du latin, ça veut dire mille ans. Les amillénaristes, qui ne croient pas au millénium. Puis les post-millénaristes, ceux qui croient au retour du Seigneur après le millénium. Nous croyons, d'après la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus doit revenir avant le millénium pour établir précisément son règne sur cette terre. Donc, comme j'ai dit, les prophéties concernant la première venue se sont accomplies d'une façon littérale. Il devait naître à Bethléem, d'une vierge, il devait être trahi par celui avec qui il partageait le pain, il devait être crucifié, et toutes ces choses se sont accomplies. Et comme j'ai dit, bien d'autres, 300 environ, prophéties, qui se sont accomplies. Et évidemment, sa personne même, c'est évident que c'est le Messie, le Seigneur Jésus, parce qu'il est le fils de David, la tribu de Judas. Il devait naître à Bethléem. Et bien autre chose qui nous prouve que c'est bien lui. C'est lui qui est venu, mais c'est celui aussi qui doit revenir. Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi deux lignes de prédiction importante. C'est le retour du Seigneur pour les siens, où il va les enlever, et il y a le retour du Seigneur avec les siens, qui est une autre ligne de prophétie. Alors on comprend cette harmonie des Écritures, cette certaine symétrie même, j'oserais dire. Vous savez, des choses symétriques, c'est comme si on met devant la maison deux colonnes, chaque bord de la porte, c'est symétrique. Si on en met une avec un bord, c'est pas symétrique. Alors, il y a dans la parole de Dieu, dans bien des domaines, une certaine symétrie. Et les Juifs recherchaient cela. Et la parole de Dieu, évidemment, elle porte l'empreinte du peuple qui nous l'a, où elle a été écrite. Et il y a ces deux lignes de prédiction. Retour du Seigneur pour les siens, dans Jean 14, le verset qu'on a cité tout à l'heure, je m'en vais, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, et plus que seulement là où je suis, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Puis le Seigneur a prié dans Jean 17, Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Ça, c'est dans le ciel. Mais il y a des sectes qui nous disent que l'espérance du chrétien, c'est sur la terre. Moi, quand j'ai entendu ça, surtout de la bouche des agents de la pure vérité, j'ai été un petit peu frappé, il y avait des années même, peut-être pas ébranlé, mais pas loin. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai cherché si c'était vraiment juste que l'espérance du chrétien est céleste. Et par la parole de Dieu, par une lecture et une recherche attentive des nombreux passages qui nous en parlent, j'ai vu que oui, nous sommes destinés au ciel, mais nous régnerons sur la terre, comme on va le voir tout à l'heure, pas nécessairement pour habiter sur la terre, mais sur la terre, comme on a le mot anglais « over the earth », ça veut dire pas en habitant sur la terre, mais en gouvernant la terre avec le Seigneur Jésus lui-même. Mais notre espérance est céleste. Nos bénédictions sont célestes. Donc, On attend le Seigneur pour venir nous chercher. Mais il va revenir avec ses saints. Comme il dit dans les Thessaloniciens, en ce jour-là, il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Il va venir avec ses saints, les saintes myriades, pour être admiré avec ceux qui auront, dans ceux qui auront cru. C'est-à-dire que nous allons régner avec lui. Il le dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est marqué, nous allons régner avec lui dans une place d'intimité que la Bible appelle l'épouse. Et tous les croyants de l'époque actuelle vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus revient comme l'étoile du matin et il revient comme le soleil de justice, comme on l'a à la fin du prophète Malachie. Et la guérison est dans ses ailes, parce qu'il va apporter, évidemment, toute une transformation à cette terre pour instaurer ce que nous appelons le millénium, selon l'expression qui se retrouve 6 fois dans Apocalypse chapitre 20. Maintenant, il y a une chose très importante qui caractérise le retour du Seigneur Jésus pour les siens, pour nous aujourd'hui, c'est l'imminence. L'imminence. Pas un mot qu'on emploie tous les jours dans la rue, mais imminent, ça veut dire qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Imminent, ça veut dire qu'il peut se produire dans très peu de temps. Et la parole de Dieu nous présente le retour du Seigneur Jésus comme devant arriver bientôt, rapidement, très très bientôt. Et à dans tous les temps, les croyants étaient responsables de cette attente, d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi ce n'est pas correct de fixer des dates? Parce qu'on doit l'attendre aujourd'hui. C'est pas compliqué. Demain, ce sera un autre aujourd'hui. Comprenez? Pas question de dire, pour moi, il vient avant la fin du mois. Pas l'attendre tout de suite. Il vient aujourd'hui. Il peut venir tout de suite, avant même que je me rassoie. Quelque chose de penser à ça. Aujourd'hui, il peut revenir. L'imminence. C'est ce qui caractérise. Le mot n'est pas dans la Bible, mais tout ce qui nous en parle nous montre cette imminence. La venue du Seigneur est proche. Je viens bientôt. Répétez 4 fois dans l'Apocalypse. Pour toute la terre l'entendre, ça, parce que 4, c'est l'universalité dans la Bible. Le chiffre qui nous parle de la terre. Donc, je viens bientôt. La venue du Seigneur est proche. Ou l'avènement du Seigneur est proche. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, la conclusion qui s'impose concernant le retour du Seigneur Jésus, c'est que nous devons l'attendre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, ou d'autres, peut-être d'autres frères, nous en parlerons. Maintenant, l'enlèvement de l'Église, comme on l'appelle, puisqu'il va nous enlever de la scène présente, c'est quelque chose qui n'était pas connu dans l'Ancien Testament. Les prophètes parlent abondamment du règne millénaire. Ils ne parlent pas du millénium, ils disent dans le fond le mot millénium, mais ils parlent du règne messianique. Le jour où le Seigneur va régner sur cette terre, puis nous montre bien que c'est sur cette terre, puisque la terre sera complètement changée. Elle respirera la crainte éternelle. Toute la terre va être changée. Ils planteront des vignes, puis ils bâtiront des maisons. C'est que, il ne faut pas s'imaginer que quand le Seigneur va venir, on ne fera rien du tout. Dieu aime les gens occupés. Pas trop occupés pour ne pas avoir le temps de l'innover, mais il aime les gens occupés. Dieu est un Dieu qui aime faire quelque chose. Ainsi, c'est pour ça que je vois l'histoire, c'est pas bon, la mère de tous les vices. Dieu, il travaille. Mais on voit que Dieu se repose aussi. En tous les cas, l'enlèvement, c'est un mystère, parce que dans la Bible, le mot mystère, c'est quelque chose qui était caché, et qui est inaccessible à la raison humaine, mais que Dieu nous révèle. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, 51, facile à se rappeler, 1, 5, 5, 1, Dieu dit, l'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère. Puis, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous déclarons d'après la parole du Seigneur, quelque chose de nouveau qui était inconnu autrefois. C'est pour ça qu'on sait que ce n'était pas connu avant, même pas dans les évangiles. C'est l'apôtre Paul qui a été l'instrument dans la main de Dieu pour révéler l'enlèvement, qui était pourtant déjà quand même dans Jean 14. Je voudrais mentionner que dans les évangiles synoptiques, comme on appelle Matthieu, Marc et Luc, il n'y a pas question d'enlèvement. Dans les évangiles synoptiques, c'est le retour en gloire, la venue en gloire, sa manifestation au monde dont il est question. Nous croyons que c'est avant la tribulation, parce qu'il ne faut pas confondre, vous aurez des tribulations dans le monde, dans un sens général, des difficultés avec la tribulation. Je me rappelle notre frère, M. Herman Payne, il nous a bien expliqué que dans l'Apocalypse, quand il est question de la tribulation, il est dit la tribulation, la grande, pour montrer qu'il s'agit bien d'une époque spéciale, déterminée, pas seulement dans un sens général, où nous pouvons avoir des tribulations dans le monde, comme c'est marqué, mais c'est une époque à venir. Maintenant, on passe vite, c'est je m'en explique. On voit dans la parole de Dieu que Dieu ne nous a pas destinés aux jours de colère. Parce qu'on voit dans la parole cette succession, le jour de grâce, auquel succède le jour de colère, et le jour de gloire, qui succède au jour de colère. Et il nous montre qu'il va nous enlever de ce monde. C'est pour ça qu'on dit enlèvement, parce que le terme veut dire un arrachement à la saine présence, et nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement est donc la première des choses que nous avons à attendre. Et pour cela, il n'y a pas nécessairement de signe. Il n'y a pas de signe pour l'enlèvement. Le Seigneur pouvait venir n'importe quand à travers tous les âges. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des signes qui sont déjà le prélude de la tribulation et aussi de son retour en gloire. De ce qui doit arriver après l'enlèvement, on le voit déjà. On le voit déjà. Mais ce n'est pas vraiment les signes de l'enlèvement. Par voie de déduction, c'est sûr que l'enlèvement doit être proche. Parce que ce qui doit succéder à l'enlèvement est déjà là. En partie. Pas tout, mais en partie. Alors on voit bien que l'heure est avancée. Il est minuit moins quelques secondes à l'horloge prophétique. Maintenant, on doit se rappeler aussi que les prophéties dans la Bible, c'est des généralités, mais que vous devez connaître, importantes pour aller plus loin. Parce que si on n'a pas la base, on ne peut pas bâtir dessus, hein. Quand on veut construire une maison, il faut d'abord quoi? La footing. Ça veut dire la base même du solage, la fondation. Donc, c'est important de dire que les prophéties nous sont données en rapport avec Israël et avec le Seigneur Jésus, pas en rapport avec l'Église. Parce que les prophéties, elles concernent la terre. Et nous sommes le peuple céleste. C'est pour ça que les prophéties sont en relation avec le peuple terrestre de Dieu, Israël. Et aussi avec le Seigneur Jésus, qui est l'objet des prophéties, comme on le verra peut-être plus tard aujourd'hui. Alors ça, c'est important de bien le garder à la mémoire. Donc, avant la tribulation, par plusieurs passages qu'on pourrait citer, mais ça, c'est un thème. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir le début du commencement des douleurs, parce que c'est déjà même là, dans bien des pays, qui doit caractériser la tribulation, les jugements de Dieu sur ce monde, et la méchanceté des hommes à son comble, avec la parution de l'Antichrist, c'est déjà là. Du reste, la Bible dit, l'Antichrist va paraître, mais il y a déjà des Antichrists. Alors on voit bien que depuis le début même où le Nouveau Testament a été écrit, c'était déjà le commencement des derniers temps. Maintenant, qu'est-ce qui doit directement succéder l'enlèvement? Bien, c'est le tribunal de Christ. Pourquoi est-ce qu'on associe le tribunal de Christ avec l'enlèvement? Bien, parce qu'on voit dans la parole que le jour où on devra rendre compte de notre vie, il est intimement associé à la venue du Seigneur. Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi. C'est pareil comme s'il apportait le cadeau avec lui. Ma rétribution est avec moi. Et on voit dans les paraboles aussi, sans bâtir de doctrine sur les paraboles, que c'est quand l'homme de haute naissance revient que les serviteurs doivent rendre compte. Les talents dans Matthieu, puis les mines dans Luc, et aussi par d'autres textes clairs et nets, on voit que c'est quand le Seigneur va venir, ça va être le signal de Christ. C'est quelque chose de penser, peut-être même avant la fin de la matinée, nous serons, nous croyants, rendus au tribunal de Christ, à rendre compte de notre vie. Maintenant, il faut comprendre, au tribunal de Christ, c'est pas question de nos péchés. Nos péchés, il les a achetés derrière son dos, il les a achetés au fond de la mer, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, il ne s'en souvient plus. Ne pas oublier, par exemple. Oublier, c'est une faiblesse. Ne pas s'en souvenir, c'est un effet de sa volonté souveraine. Pas la même chose. Mais dans un effet de sa volonté souveraine, Dieu dit, tes péchés, je m'en souviens plus. Quelque chose. Et il répète dans la parole. Donc, c'est une question au tribunal de Christ d'évaluer notre vie de service. Ce qui a peut-être été beau devant les hommes sera peut-être pas apprécié du Seigneur, comme peut-être une sœur qui n'a jamais prêché, mais qui a été fidèle dans sa sphère d'activité, sera peut-être plus récompensée que certains prédicateurs. Ah, faut penser à ça. Un encouragement, c'est pas ce qui est le plus visible, qui est nécessairement le plus important. C'est vrai que tout est important. Alors, on doit se rappeler qu'au tribunal de Christ, tout va être vu dans la lumière du sanctuaire. Tout va être pesé. On a dit même les conversions. Il ne faut pas les compter, il faut les peser. Parce que Dieu est un Dieu de mesure. C'est une expression de la Bible d'Henri dans le Nouveau Testament. Dieu pèse. Il voit qu'il y a de la valeur pour lui. Tout va venir en lumière, puis Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Et ça, c'est pour les chrétiens. C'est ce que la Bible appelle, en termes, dans le langage biblique, vous l'avez peut-être déjà entendu, le béma. Parce que ça, on dit tribunal de Christ, mais ce n'est pas vraiment un tribunal. C'est plus juste la tribune de l'arbitre. Comme aux Jeux olympiques, où l'arbitre indique qui a gagné la course, celui qui attribue les prix aux différents concurrents. Alors, au tribunal de Christ, il va donner les prix, il va donner les récompenses. Mais il y en a qui n'auront pas de récompenses, comme on le voit dans Corinthiens 3, il y en a qui n'auront rien fait pour le Seigneur. Ceux qui sont sauvés sur le lit de mort, ils n'auront rien fait, ils vont être sauvés pareil, blanchis dans le sang de Christ. Mais ils n'auront rien fait pour le Seigneur. Ceux qui sont sauvés jeunes, puis qui ont vécu pour le Seigneur toute leur vie, une vie de fidélité et de service, ben, ils auront une récompense qui est comparée dans la parole aux couronnes, aux différentes couronnes. Dans la parole, il nous dit que quant à nos personnes, nous devons comparaître. Quant à nos motifs, nous devons être manifestés. Et quant à nos œuvres, elles seront examinées. Donc tout sera mis en lumière au tribunal de Christ. Maintenant, sur la terre va se déclencher la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire, l'horloge d'Israël va être, l'horloge prophétique va être remise en marche. Elle a été, pour ainsi dire, arrêtée. Et Dieu va reprendre ses relations avec son peuple. qui va être retourné en Palestine. Et ils vont évidemment rebâtir le temple, le culte de l'Éternel va être célébré, et l'évangile du royaume sera prêché. Mais il va apparaître aussi deux individus qui sont peut-être déjà vivants, les deux bêtes d'Apocalypse 13. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Moi, je pense que la bête qui monte de la mer, c'est le chef politique du monde des nations agitées comparé à la mer. La bête qui monte de la terre, c'est la bête qui est en contraste avec l'agneau qui vient d'en haut. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous ne me recevez pas, un autre viendra, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Ça, c'est l'Antichrist, le faux Christ. J'aime pas l'expression antéchrist. Je pense que c'est mieux antichrist. Ça veut dire contre Christ, opposé à Christ. Et évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur les différents statuts, la statue dans Daniel chapitre 2 et dans Daniel chapitre 7, où on voit évidemment les grands royaumes qui doivent se succéder. Et on sait qu'il y avait trois royaumes, parce que je devrais dire aussi, il y a tellement de choses à dire que c'est dur de dire tout à la fois. Ça me fait penser à un certain prédicateur en Suisse qui dit une fois, il dit, quand je parle, il y a tellement de choses que je veux dire, je ne sais pas quel mot je dire. C'est ça, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus que c'est dur de tout dire, mais on devrait rappeler que aussi, au même moment que le Seigneur revient et que Dieu va reprendre ses relations avec Israël, c'est la fin du temps des nations. Et le temps des nations a commencé quand les Juifs ont été envoyés en captivité, dans le temps de Nebuchadnezzar. Puis il y a quatre grands empires qui se sont succédés. Ça, c'est l'histoire. Puis ce que la Bible dit, ce que la Bible annonçait, c'est conforme à l'histoire. Laissez-vous jamais dire que la Bible a des erreurs au point de vue historique. La Bible est vraie au point de vue historique, au point de vue prophétique, au point de vue pratique et au point de vue eschatologique. À tous les points de vue, ces quatre points de vue, la Bible est vraie. Tous les points de vue. Il n'y a pas d'erreur. Nous croyons à ce qu'on appelle l'inhérence des Écritures. Ça veut dire qu'elle est sans défaut dans les textes originaux. Donc, il y avait d'abord l'Empire babylonien, il y avait l'Empire des Mèdes et des Perses, il y avait l'Empire grec avec Alexandre le Grand, et il y avait finalement l'Empire romain symbolisé par la statue, les jambes de fer, et les pieds de fer et l'argile. Puis l'Empire romain a été détruit, mais il doit réapparaître à la fin des temps, et c'est ce qu'on voit. C'est Babylone la Grande. Babylone la Grande. Dans la Genèse, Babylone, c'est une tour. Au début de la Bible, au milieu de la Bible, Babylone, c'est un empire. Et à la fin de la Bible, Babylone, c'est un système. C'est important de comprendre. Je répète, dans la Genèse, au début de la Bible, Babylone, c'est une tour. Au milieu de la Bible, Babylone, c'est un empire. Et à la fin de la Bible, Babylone, c'est un système. Et à l'Empire romain reconstitué sera associé, évidemment, la fausse Église et l'Antichrist, le faux prophète, appelé faux prophète, et le chef de l'Empire romain. Ils vont s'associer. Puis au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi, ils vont rompre leur alliance, et puis ça va être la grande tribulation. D'abord le commencement des douleurs, puis ensuite la grande tribulation. Comment est-ce qu'on sait que c'est 7 ans, 3 ans et demi? Ben, on le voit dans Daniel, c'est 7 ans, puis 3 ans et demi dans l'Apocalypse. Il le dit de 3 manières, en termes d'année, en termes de mois, puis en termes de jours. En termes d'année, il dit 2 temps, 1 temps, puis 1 demi-temps. En termes de mois, il dit 42 mois. Puis en termes de jours, il dit 1260 jours. Parce que dans la Bible, les mois sont des mois lunaires. de 30 jours, tous égaux. Donc, on voit bien que c'est ça. Tous les morceaux du casse-tête s'assemblent et sont tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Si vous ne comprenez pas tout, si vous ne retenez pas tout, imaginez-vous pas que vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui sait tout. Imaginez-vous pas que vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui sait tout. Rien Dieu. On est limité dans notre compréhension et dans notre intelligence des Écritures. C'est normal. La Bible est infinie. Puis nous, on est bornés, limités dans notre intelligence spirituelle. Donc, il y aura l'Empire reconstitué et ensuite, Israël voudra faire alliance avec l'Empire romain pour se protéger contre l'Assyrien et Gog, qui représente la Russie, et puis l'alliance sera rompue. En tous les cas, c'est là, à ce temps-là, à la fin, qu'il y aura la fameuse bataille d'Armageddon. Maintenant, les prophètes de l'Ancien Testament abondent de prophéties qui nous parlent de ces jours-là. Les prophètes de l'Ancien Testament nous parlent beaucoup de ces jours terribles et on voit aussi dans beaucoup de psaumes le cri du peuple de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de psaumes qui sont incompréhensibles si on n'a pas saisi ces données eschatologiques, parce que dans les psaumes, le peuple crie vengeance. Vous savez, il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Ça vous étonne? Ça vous étonne, hein? Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple, crier vengeance, c'est pas chrétien, ça. Le chrétien doit pardonner. Mais dans le temps de la tribulation, ce sera selon les conseils de Dieu que le résidu ou le reste fidèle de Juifs crieront à Dieu, mais punis tes ennemis, Seigneur, déchaîne ton châtiment. Et ils prieront dans le sens où c'est écrit dans les psaumes. Comme David a prié des fois, ce sera le langage des fidèles dans ce temps-là. Et aussi, on voit ça dans les prophètes, je veux dire. Donc, ça nous aide à comprendre les Écritures, de connaître un peu le domaine prophétique. Mais Dieu accomplira ses desseins. Et après avoir châtié son peuple, comme autrefois Joseph a été dur avec ses frères en Égypte, mais Dieu sera dur avec son peuple. Mais il va les ramener à lui. Parce que c'est le but de Dieu, de ramener le cœur de son peuple à lui-même. Et le Seigneur va venir avec ses saints et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il va venir juger ce monde et instaurer son règne merveilleux, dont les prophètes nous parlent aussi. Ça va être un beau jour, ça. On peut se jouir d'un jour si merveilleux. Mon cœur est touché quand je pense au jour-là. Réellement, mon cœur est sensible. Il y a une chose que je devrais dire, c'est que les deux plus grandes coalitions militaires, malgré les guerres, elles ne vont pas se détruire entre elles. C'est le Seigneur lui-même qui va les anéantir par le souffle de sa bouche. Et il va instaurer son règne de paix. Ou alors la terre sera changée. Il y a bien des choses que je ne pourrais pas vous expliquer, que je ne comprends pas dans la parole. Il y en a d'autres que la Bible ne nous dit pas, que je me demande. Ils vont voyager dans ce jour-là, il n'y aura pas de pollution. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre de l'eau dans leur réservoir. Ce sera la fin de notre civilisation sophistiquée qu'on connaît aujourd'hui. Toute l'industrie pétrochimique et tout, ce sera fini ces choses-là. Ils cultiveront la terre avec froid, avec des instruments aratoires, de leur lance, de leurs armes. Ils feront des instruments aratoires pour cultiver la terre, comme on le voit dans Ésaïe. Ce sera complètement un bouleversement tel qu'on ne peut pas s'imaginer, parce qu'on est tellement habitué d'un monde imparfait, souillé, qu'on ne peut pas se représenter un monde complètement changé, un monde de justice, où la terre va produire, où il y aura un masque pour tout le monde, où la justice va régner. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Bien, on attend ce jour-là, le millénium. J'aimerais lire juste un verset, Ésaïe 33. Le temps s'arrête bientôt, alors je vais commencer de préparer ma conclusion. Ésaïe 33, au verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Dans tous les pays civilisés du monde, il y a trois niveaux d'autorité. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est ceux qui font les lois, l'Assemblée nationale pour nous. Le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres, qui est chargé de faire exécuter les lois, et le pouvoir judiciaire, c'est nos différents tribunaux. Bien au millénium, le Seigneur Jésus lui-même aura ces trois niveaux de pouvoir. L'Éternel est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi. Ils ne sont pas donnés dans l'ordre dans lequel je les ai donnés, qui pour nous est l'ordre logique. Mais dans la Bible, on voit que le Seigneur Jésus occupera ces trois niveaux de gouvernement pendant son règne. C'est lui qui va faire les lois, ce sont ses lois qui vont faire autorité, comme on les voit dans le début de l'Évangile de Matthieu. Deuxièmement, c'est lui qui va faire exécuter les lois, probablement qu'il aura des délégués. Et troisièmement, c'est lui qui va être le juge. C'est pour ça que ce sera beau. Ce ne sera plus le règne des hommes. Le jour de l'homme sera terminé. Ce sera le septième jour, le jour où le Seigneur Jésus va régner sur ce monde. Il va faire, lui, ce que les têtes les plus brillantes et les hommes les mieux intentionnés, parce qu'il ne faut pas toujours seulement critiquer les politiciens. Il y en a qui veulent le bien. Mais les meilleurs et les plus intelligents n'auront pas pu faire, lui, va le faire sur cette terre. Ça, c'est les choses que nous attendons bientôt. Maintenant, après le millénium, comme on voit dans l'Apocalypse chapitre 20, Satan va être délié pour un peu de temps. Pourquoi? Demandez-le-moi pas. Je ne peux pas dire pourquoi. Je peux seulement dire que Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dieu veut. Et finalement, Satan sera détruit pour toujours. Pendant le millénium, Satan sera lié. Il y en a qui pensent qu'il est lié aujourd'hui, mais je dis que s'il est lié, il a brisé sa chaîne. Parce que... Il y en a un qui croit à ça, qui m'a dit, soyez lié, mais sa chaîne est longue. Il n'est pas lié certain. La Bible dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Et après, évidemment, Dieu va instaurer le jour éternel. Le millénium, c'est pour ainsi dire le septième jour. Et le jour éternel, c'est le huitième jour. Un nouveau commencement, parce que dans la Bible, le chiffre 8 nous parle d'un nouveau commencement. Comme dans une gamme de musique, le huitième note, c'est le recommencement de la gamme. Alors, le huitième jour, c'est le jour éternel, où il nous est dit que Dieu sera tout en tous. Difficile à comprendre, mais on comprend que Dieu dise des choses qui sont dures à comprendre. Maintenant, j'aimerais donner comme conclusion la même chose que ce que j'ai dit comme introduction. C'est que la connaissance des choses de demain doit nous aider à mieux vivre